De lire la parole de Dieu avec moi un instant. Nous pourrons continuer à prier après le moment de méditation. Et je vous propose une lecture dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 1er. Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1er, les 5 premiers versets. Paul et Sylvain et Timothée à l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Amen. Voilà, je voudrais vous dire que si je devais donner un titre justement à la méditation de ce soir, ce titre serait « Thessalonique, une église dont on peut être fier ». Vous savez, je m'aperçois à l'heure actuelle que certaines églises peuvent s'enorgueillir de beaucoup de choses. Entre autres, certaines églises s'enorgueillissent du nombre de membres qu'elle possède, de la dimension du terrain sur lequel le bâtiment a été construit. Elles peuvent se glorifier aussi du plan de l'édifice dans lequel ils se rassemblent. Ils peuvent se glorifier de leur chorale, de leur musique, peuvent se glorifier de la liberté aussi qu'ils prennent parfois dans le service de l'adoration en remplaçant, je dirais, bien des choses qui sont agréables à Dieu par des moyens totalement humains. Et on voit petit à petit disparaître dans certains endroits la place de la parole de Dieu au profit de la psychologie, au profit aussi de bien des choses qui ressemblent à ce qui se passe dans ce monde. Mais il y a une chose que je voudrais remarquer ici, c'est que si on tenait compte de ces différents critères que je viens de citer, l'Église de Thessalonique, l'Église des Thessaloniciens, ne pourrait pas être considérée comme une Église qui doit être recommandée. Pourquoi ? Parce qu'elle n'avait pas d'édifice, tout simplement parce qu'au moment où justement elle a été formée par la puissance de la prédication de la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit, il n'y avait pas à ce moment-là de bâtiment. Les premières églises dignes de ce nom n'ont apparu qu'au IIIe siècle, dont il n'y avait pas de bâtiment pour cette église de Thessalonique. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'elle possède certaines caractéristiques qui nous donnent envie. Et j'aimerais assez succinctement ce soir pour que nous ayons aussi la possibilité de continuer à invoquer le nom du Seigneur et de prier, vous donner quelques caractéristiques de cette Église dont nous pouvons être fiers pour elle, mais en même temps demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce de les posséder également en ce qui nous concerne. Voyez-vous, il y a 5 points. Et je vais les citer assez rapidement et les développer aussi assez rapidement. Le premier point, c'est une conversion véritable des membres de cette Église. Une foi qui progresse. Et en même temps, il est dit un amour qui augmente chaque jour. une ferme assurance et une attitude digne du royaume de Dieu. Alors, en prenant chacun de ces points-là, nous allons pouvoir nous poser aussi, en sondant nos cœurs, la question de savoir où on en est. Et j'espère de tout mon cœur que nous allons pouvoir répondre d'une manière positive et en tous les cas, faire un sujet de prière pour que, eh bien, l'Église à laquelle nous appartenons, l'Assemblée que nous représentons, puisse être aussi à la gloire et à la louange du nom précieux du Seigneur. Et je suis persuadé que chacun d'entre vous, vous avez ce désir au fond de vous-même de glorifier le Seigneur à titre individuel, bien sûr, mais nous le voulons aussi à titre collectif. Alors, je commence par ce premier point, une conversion véritable. Peut-être quelqu'un me dira, mais comment pouvez-vous dire cela à partir de ces quelques versets que vous avez lus? Eh bien, j'attire juste votre attention sur ce fait. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ, le Seigneur. Le mot-clé dans ce verset, c'est « en Dieu ». Voyez, le christianisme est le seul qui puisse mettre en relief la relation qui existe entre ses adeptes et leur Dieu, notre Dieu, le Dieu véritable et vrai, le Dieu créateur du ciel et de la terre, notre Rédempteur et notre Sauveur. Vous pouvez regarder, les autres religions ne peuvent pas parler de cette manière-là. Il n'est pas question d'être en leur Dieu. Mais le christianisme a cette possibilité. Et quand nous disons que nous sommes en Dieu le Père, alors cela veut dire aussi que nous avons hérité de sa nature. Il est notre Père. Et notez, s'il vous plaît, frères et sœurs, que Dieu, qui est appelé ici le Père, n'est pourtant pas le Père spirituel de toutes les créatures qui sont sur cette terre. Il y a quelque temps de cela, nous nous sommes penchés sur le chapitre de l'Épître aux Éphésiens, où il était question d'une prière que Dieu, plutôt que l'apôtre Paul faisait monter aussi vers Dieu le Père, et il a dit, ce Dieu duquel toute famille ici-bas sur la terre tire son nom. Cependant, tous les hommes ne peuvent pas dire qu'ils ont cette même paternité-là. La parole de Dieu met en relief qu'il y a les enfants du diable et il y a les enfants de Dieu. Si vous lisez le chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, alors vous allez vous apercevoir que Jésus avait un dialogue, mais je dirais assez soutenu, une parole assez dure aussi par rapport à ses concitoyens juifs. Et comme ils voyaient leur opposition à la vérité qu'ils représentaient, puisqu'il est l'envoyé du Père et qu'ils avaient quand même la possibilité, possédant les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, de se rendre compte que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, voyant leur opposition, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Vous avez pour Père le diable. Et donc nous voyons qu'il y a des créatures qui ne peuvent pas bénéficier de cette filiation-là. Et d'ailleurs, dans la première épître de Jean, il est aussi dit qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres que l'on reconnaît ceux qui appartiennent vraiment à Dieu et qui donc ont pour Père, le Dieu vivant et vrai, que nous connaissons, que nous aimons et que nous servons. Et c'est la Bible, la parole de Dieu et l'Évangile notamment, qui met en relief que lorsqu'on a accepté Jésus comme notre Sauveur, Jésus-Christ, alors nous sommes capables d'être transformés de gloire en gloire en l'image de notre Dieu. Et l'apôtre Pierre souligne que nous recevons la nature divine. C'est la raison pour laquelle, quand on est caché en Dieu, comme c'était le cas de ces Thessaloniciens-là, eh bien, on peut vraiment dire, là, il y a une authentique et véritable régénération. Et la différence qui existe entre cette Église et certaines qui se trouvent mentionnées dans la parole de Dieu, et notamment dans le livre de l'Apocalypse par le Seigneur Jésus lui-même, eh bien, la différence se trouve dans ce fait que eux sont amenés à rechercher de plus en plus la sanctification. Par exemple, dans cette deuxième épître, au chapitre 2 et au verset 13, et au verset 14, je lis ceci. C'est Paul qui souligne ce fait. « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. » Voilà ce qui caractérisait ces chrétiens-là. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus parle de l'église de Sardes, et l'église de Sardes, eh bien, elle est morte. Jésus parle de l'église de Laodicée, et l'église de Laodicée a une particularité, c'est qu'elle est tiède. Et parce qu'elle est tiède, eh bien, elle provoque des nausées, dans ce sens que le Seigneur lui-même dira, eh bien, je la vomirai de ma bouche. Mais ici, l'église de Thessalonique a cette particularité-là. Elle fait des progrès dans la sanctification. Ça veut dire donc qu'elle appartient vraiment à Dieu. Ça veut dire que la conversion est véritable pour chacun de ses membres-là. Et puis, la deuxième caractéristique de cette église, c'est qu'elle possède une foi qui ne cesse de progresser. J'ai remarqué ici quelque chose que l'apôtre Paul souligne. Il dit « Nous devons, à votre sujet, rendre grâce à Dieu parce que votre foi, eh bien, elle progresse. Nous devons rendre grâce à Dieu. » Le terme qui est utilisé dans le texte original désigne une obligation. C'est-à-dire une sorte de dette, comme s'il y avait une responsabilité importante. Paul n'a d'autre choix que de rendre grâce à Dieu pour cette église-là, parce qu'il sait que si la foi progresse, s'il y a quelque chose de particulier dans cette église-là, c'est dû seulement à l'intervention de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il remercie le Seigneur pour cela. Ce que nous sommes, mes frères et sœurs, les uns et les autres, nous le devons à qui ? Nous le devons à la grâce du Seigneur. Nous le devons à notre Dieu. Voyez-vous, même si nous pouvons quelquefois admirer certains hommes, certains ministères, si nous pouvons être attachés à certaines personnalités qui nous ont fait du bien, je dirais quand même que tout nous vient de Dieu et que c'est seulement la grâce de Dieu qui nous permet de faire des progrès dans le domaine de la foi, même lorsque nous sommes appelés à traverser des moments qui, dans notre vie, sont appelés des moments difficiles ou des moments d'épreuve. Je vais d'ailleurs vous dire que les difficultés, les tribulations, qui ont été d'ailleurs le partage de cette église de Thessalonique, eh bien, ont été le moyen par lesquels cette église a pu réaliser des progrès. Ceci me permet de dire ce soir, assez brièvement, mais comme un point quand même qui me paraît important, que l'épreuve dans notre vie n'a pas pour but notre destruction. Elle détruit que la foi qui n'est pas authentique, elle détruit que ce qui n'est qu'apparent. Mais ce qui est une foi authentique, véritable, qui a été suscitée en nous par le Saint-Esprit et par l'écoute attentive de la parole de Dieu, puisque chacun de nous le sait, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la foi authentique, elle ne sera jamais ébranlée par les épreuves. C'est la raison pour laquelle, eh bien, Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous a laissé une parabole que nous connaissons bien, c'est la parabole des différents terrains. Et vous vous souvenez très probablement qu'à un moment donné, il parle d'un terrain particulier qui est rocailleux. Il y a juste une mince couche de terre à la surface. Et il dit, quand la semence tombe dans cette terre-là, eh bien, rapidement, elle germe. Mais comme les racines ne peuvent pas aller en profondeur à cause de ce terrain rocailleux, quand vient le soleil de l'épreuve, que dit le Seigneur Jésus, elle sèche rapidement et elle disparaît. Voyez, cela met en relief que la foi authentique ne peut pas être touchée par les épreuves. Mais la fausse foi, celle qui n'est qu'une apparence, celle-là, elle est ébranlée. Je voudrais appuyer ce que je viens de dire par un autre témoignage tiré de la parole de Dieu. Et ce témoignage, c'est celui de Job, cet homme particulier qui, par exemple, dans son livre au chapitre 42, dit ceci. C'est un dialogue qu'il y a avec Dieu. Et Job répond à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Voyez, cet homme a été durement éprouvé. Il a connu les épreuves qu'aucun de nous n'a jamais connues, certainement. Et cet homme-là, après des moments un peu difficiles, n'a pas eu néanmoins sa foi qui a disparu, mais c'est admirable de lire les paroles que nous venons de lire dans son livre, où l'on voit que d'un seul coup, il y a comme une révélation plus grande de qui est Dieu. Et il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Voyez, c'est comme si d'un seul coup, il y avait cet élargissement et qu'il lui permettait de voir et de comprendre qui est Dieu. Justement, nous devons dire que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, eh bien, ne seront jamais ébranlés outre mesure, mais ils verront toujours leur foi être fortifiée et grandir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il ne faut jamais perdre courage, mais toujours placer notre confiance dans le Seigneur. La troisième caractéristique, c'est qu'ils avaient un amour qui augmentait. Et c'est ce qu'il est dit au verset 3, « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Eh bien, en ce qui concerne l'amour, je voudrais encore une fois ce soir rappeler, mes frères et sœurs, que ça n'a rien à voir avec l'amour sentimentaliste, rien à voir avec ce que nous avons tendance parfois à appeler amour, mais qui ne correspond pas à ce qui est mentionné dans l'Écriture et à ce miracle qui est ce que Dieu accomplit dans notre vie, puisqu'il est dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas oublier qui que nous soyons, et quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, ou à laquelle nous devons faire face, nous ne pouvons pas oublier le commandement du Seigneur, qui est de nous aimer les uns les autres. Et il est dit, comme le Seigneur nous a aimés. Les vrais croyants se démarque non par un amour fait de sentimentalité ou de romantisme, mais par l'amour qui nous amène à servir les autres avec altruisme et avec empressement. Si nous ne servons pas les autres, eh bien, nous ne pouvons pas prétendre avoir cet amour que le Seigneur réclame de chacun d'entre nous, qu'il est prêt à donner en réponse à notre prière si nous reconnaissons une défaillance dans ce domaine, et il est capable de combler en mettant en nous, eh bien, cet amour véritable. Cette semaine, je me suis penché pendant un instant sur l'expérience faite par un homme qui s'appelle Nathan dans l'Ancien Testament. Et je me suis posé des questions au sujet de son intervention auprès du roi David. Vous savez comment, pendant un certain temps, David, qui a commis de graves fautes, je dirais David, quand je pense que Dieu dit de lui que c'est un homme selon son cœur, des fois ça me pousse à réfléchir, parce que je sais que c'est en même temps un criminel, que c'est en même temps un menteur, que c'est en même temps quelqu'un qui finalement a été capable de tromper un de ses meilleurs amis et que par sa conduite odieuse dans une certaine circonstance a permis que plusieurs sacrificateurs eh bien, soient conduits dans la mort. Et cet homme, après avoir commis son adultère, a dû se faire passer pendant un certain temps pour quelqu'un d'extrêmement généreux et bon. Vous imaginez un peu ce que devaient penser les gens du roi David quand ils ont vu qu'il a pris dans sa demeure Bathsheba, la pauvre veuve. Vous vous rendez compte? Il prenait soin d'une veuve, il allait s'occuper d'elle, et les gens qui ignoraient tout de ce qui s'était passé pouvaient dire « Ah, mais quel roi formidable nous avons !» Sauf que Dieu connaissait tout. La vérité, il y en avait trois qui la connaissaient bien. Il y avait Bathsheba, celle avec qui il a commis adultère, lui, puis Dieu, qui voit dans le secret. Mais en même temps, je dirais qu'il y en avait un quatrième qui, par la révélation du Saint-Esprit, savait ce qui s'était produit dans la vie de son meilleur ami. Et comment allait-il confronter David? La manière dont il l'a fait est pour nous un moyen de bien saisir que parfois nous avons à confronter nos frères. Et que la confrontation, elle n'est pas, comme certains peuvent l'imaginer, malsaine, regrettable ou douloureuse. Certainement, elle le sera. Mais en tous les cas, elle peut être un acte d'amour. Et vous vous rappelez certainement comment Nathan s'est approché de David en lui racontant une petite histoire. Vous savez, l'histoire du pauvre qui avait qu'une brebis et du riche qui en avait beaucoup, mais qui, au lieu de prendre parmi son troupeau ce dont il avait besoin pour préparer un festin, est allé chercher l'unique brebis du pauvre. Et quand il lui a parlé de cette manière-là, vous savez comment David a réagi. Et il a dit, mais cet homme-là, il mérite la mort et il doit rendre quatre fois ce qu'il a pris. Vous savez que ce qu'il a dit, c'était déjà accompli et réalisé dans sa vie, parce qu'il a perdu 4 fils, subitement. Et ça prouve que Dieu a un gouvernement qu'on ne peut pas changer. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est un Dieu de miséricorde, mais Dieu nous fait payer aussi les conséquences de nos turpitudes. Et il faut savoir que des fois, nous devons être confrontés à cela. Et David, à ce moment-là, a été confronté par cet homme qui lui a dit « Mais cet homme que tu juges, cet homme dont tu dis telle chose, eh bien, c'est toi. » Heureusement que David avait un cœur humble pour reconnaître les faits. Il s'est humilié et la grâce de Dieu a agi en sa faveur. Vous voyez, mes frères et sœurs, Nous avons à veiller aussi les uns sur les autres. Et la Bible dit pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Et bien sûr que nous devons toujours faire attention quand nous nous approchons de quelqu'un pour, avec amour, peut-être redresser certaines choses. Parce que, avant tout, et vous connaissez ce verset aussi bien que moi, nous devons demander au Seigneur d'enlever la poutre qu'il y a dans notre œil avant de pouvoir enlever la paille qui est dans l'œil de notre prochain. Mais une fois que cela est fait, eh bien, la vérité dans l'amour est une chose qui est absolument nécessaire. Et ce qui est formidable là, c'est que Paul a remarqué, eh bien, que cet amour caractérisait les Thessaloniciens. Et il dit que cet amour-là, eh bien, est en chacun d'eux, et il a de l'égard pour tous les autres, et on voit que cet amour augmente de plus en plus. Et puis, la quatrième caractéristique, c'est qu'ils avaient une ferme espérance. Fermeté de leur espérance, même au milieu de certains moments tellement difficiles. Ce n'était pas un sentiment de résignation, ni non plus, je dirais, manifestation d'un certain esprit stoïque, non. Mais c'était tout simplement une fermeté qui était renforcée, je dirais, par les moments difficiles qu'ils traversaient. Je dirais que les moments difficiles dans notre vie ne sont pas là comme fondement de notre foi et de notre fermeté, mais c'est, je dirais, la conséquence. Hein, c'est le moyen par lequel nous sommes amenés à être de plus en plus forts en espérance. Je voudrais vous dire, il y a quelque chose que nous pouvons constater, c'est le contraste qui existe entre l'atmosphère actuelle qui agit dans le cœur de l'homme, où il y a des considérations personnelles, où chacun cherche son bonheur, la réalisation de soi, cherche son confort, cherche le succès, cherche la prospérité. Et puis, ce qui est mis en relief par la parole de Dieu, où nous devons adopter, même dans les moments les plus difficiles, une attitude digne du royaume de Dieu. Parce que les moments difficiles affermissent notre espérance. Et je dirais que plus on avance et plus on devrait être joyeux en pensant à ce qui nous est réservé. J'ai d'ailleurs oublié de mentionner cela dans ma méditation dimanche matin, alors que j'abordais un peu ce sujet-là. Je suis étonné, j'ouvre mon cœur ici, de voir le nombre si petit de personnes qui sont maintenant avancées en âge et puis qui ont un cœur toujours plus joyeux, plus reconnaissant à Dieu, rempli d'espérance à cause de la vision que nous pouvons avoir de l'éternité et de ce qui nous attend dans l'au-delà. Je remarque que plus certains avancent, plus ils sont dans l'amertume, dans l'aigreur, ils sont dans la résignation parfois, et il semble que l'esprit de louange a disparu. Écoutez bien, mes frères et sœurs, plus nous avançons avec Dieu et plus nous nous approchons de ce jour où nous allons le voir, plus il devrait y avoir de la joie dans notre cœur. Je ne sais pas comment m'exprimer. Vous savez, quand j'étais même un jeune homme, loin de la maison paternelle, eh bien, le jour où je devais retourner à la maison, c'était pour moi un sujet de joie. Pourquoi ? Parce que je savais que là-bas, il y avait des êtres qui m'aimaient, qui m'attendaient. qui allait me recevoir, les bras ouverts. Vous savez, mes frères et sœurs, quand nous parlons du ciel, mais ne pensons pas seulement aux routes d'or, ne pensons pas aux portes faites de perles précieuses, ne parlons pas à toute cette magnificence. C'est vrai que tout cela est mentionné dans l'Écriture et que tout cela est vrai. Mais là-haut, il y a quelqu'un qui nous aime et qui prouve son amour chaque jour envers nous d'une façon tellement admirable. Donc plus nous nous approchons, plus nous devons nous réjouir. Pourquoi ? Parce que c'est une glorieuse réalité. Le royaume de Dieu est notre partage. Et vous voyez ici, il se rend compte, Paul, que précisément, il y a une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, la souffrance n'est pas le fondement, mais elle est la conséquence. Nous appartenons au Seigneur et le diable n'est pas content. Ne vous imaginez pas que parce que nous appartenons au Seigneur, nous allons avoir une vie tranquille, pour utiliser le terme de notre frère dans son témoignage. Un long fleuve tranquille, non, non. C'est la raison pour laquelle, même quand il y a des moments difficiles, je les ai traversés, vous les connaissez, mes frères et sœurs. Si Dieu pouvait être fier de l'Assemblée, en voyant des hommes et des femmes qui n'ont pas les yeux rivés sur ce qui est négatif, mais les yeux rivés sur ce qui les attend. Notre espérance est glorieuse. Notre espérance est véritable et nous avons besoin de sortir en quelque sorte de cet état de fait où nos prières même tournent toujours autour de choses qui sont visibles et passagères. Bien sûr, nous pouvons les exposer, mais nous pouvons aussi réclamer à Dieu eh bien, d'avoir une vision plus grande, d'avoir une révélation plus grande, d'avoir une foi plus authentique, d'avoir une plénitude de l'esprit de vie, de voir Christ grandir en nous et prendre toute la place dans notre cœur. Pourquoi ? Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous connaissions la plénitude en lui. Êtes-vous d'accord, mes frères et sœurs ? Alors voilà, des sujets des prières. Et j'ai voulu très rapidement vous placer ces 5 points devant vous. Écoutez bien, mes frères et sœurs, je voudrais les reprendre simplement. Dieu est celui qui ne se fie pas aux apparences. Dieu ne se fie pas à l'édifice, ne se fie pas au nombre de croyants, ne se fie pas à notre budget, ne se fie pas à nos offrandes, ne se fie pas à toutes ces choses-là. Mais il considère ces 5 points-là. Le salut, la progression dans la foi, également l'amour qui augmente, la fermeté dans notre espérance et une attitude digne du royaume de Dieu afin que ceux qui nous regardent vivre puissent se rendre compte que nous possédons quelque chose de plus et c'est le partage de l'Église de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.